Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 13. La troisième tapisserie. La tapisserie de cette troisième pièce, continua Raoul, était une des choses les plus étranges et les plus curieuses qu'il fut possible d'imaginer. Elle datait d'une époque extrêmement reculée, et dont il me serait impossible d'indiquer la date d'une manière précise. Et elle représentait la reine de Saba offrant des présents au roi Salomon. Le dessinateur naïf, sur les maquettes duquel cette tapisserie avait été exécutée, s'était ingénié à donner à la plupart de ses personnages des figures rébarbatives et des mines farouches. Salomon, le grand Salomon, malgré son costume oriental, ressemblait plus à un capitaine de routier qu'à ce roi des Juifs dont la sagesse et la beauté sont devenues proverbiales. Les seigneurs de sa cour avaient l'air d'autant de Michelets et de Soudard. Les dames de Jérusalem affectaient l'allure de ribaudes un peu plus qu'éveillées. La reine de Saba, seule au milieu de ce bizarre entourage, offrait des traits d'une pureté merveilleuse, remplis d'un charme et d'une douceur inexprimable. Ses grands yeux, d'un bleu sombre, fendus en amande à la manière orientale, étaient frangés de longs cils d'ébène. Comme Vénus, elle avait des cheveux blonds, merveilleusement abondants, et naturellement bouclée. Bref, et pour en donner une idée complète et rapide, je dirais qu'en empruntant le plus choisi de ses charmes à chacune des beautés exquises qui font l'ornement et la joie des soupers de votre Altesse, et en réunissant tous ses charmes pour en faire une seule femme, on n'obtiendrait point un résultat plus complet et plus harmonieux, un ensemble plus séduisant que ne l'était l'image de cette jeune reine de Saba. Oh, oh ! S'écria le régent en interrompant gaiement Raoul. Après la bonne fortune mythologique, voici venir la bonne fortune biblique. Après avoir été le rival de votre aïeul, vous allez devenir celui du roi Salomon. Prenez garde, chevalier, nous allons vous surnommer l'amoureux des tapisseries. Je suis obligé de désabuser votre Altesse, répondit la tremblée, car en vérité, cette fois, il ne s'agit pas d'une bonne fortune. Alors je retire mes paroles de tout à l'heure, et je vous engage à poursuivre. Raoul s'inclina et reprit. Il y avait dans ma famille, à propos de la tapisserie que je viens d'avoir l'honneur de décrire à votre Altesse royale, une tradition assez bizarre, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors, et qui me fut racontée par un vieux serviteur du château au moment où je pris possession de la troisième chambre. Cette tradition affirmait qu'un de mes ancêtres avait rapporté de la seconde croisade un portrait de la reine de Saba, portrait authentique, irrécusable, et qui se conservait de père en fils comme un trésor d'une inestimable valeur depuis le temps du roi Salomon dans une famille juive habitant les environs de Jérusalem. La tradition ne disait point si mon ancêtre avait acheté ce portrait ou s'il s'en était emparé de vive force. Au reste, ce détail importait peu. À peine revenu en France et dans ses terres avec sa précieuse conquête, mon ancêtre, en véritable la tremblée qu'il était, s'empressa de commander une tapisserie à personnages dont la reine de Saba devait être la figure principale. Cette tapisserie fut faite et posée. Depuis cette époque, le portrait original disparut, mais la tapisserie resta. Ainsi, demanda le régent, les traits reproduits par la tenture de votre château de la Tremblée sont véritablement et certainement ceux de cette reine qui fut la plus aimée de Salomon, le plus amoureux de tous les rois. La tradition l'affirmait, et bientôt, je crois, votre Altesse ne pourra plus en douter. « Continuez, chevalier, dit le duc d'Orléans, je vous écoute. Nous vous écoutons tous avec un intérêt qui ne se ralentit point. » Les nuits de chasse et d'amour des deux premières chambres, poursuivit Raoul, m'avait donné la conviction que des visions, sinon de la même nature, du moins du même genre, se manifesteraient à moi dans la troisième pièce. Aussi, je n'éprouvais pas le moindre sentiment de surprise quand une nuit, après m'être endormi d'un calme et profond sommeil, je fus réveillé par une lueur étrange qui remplissait la chambre et devenait de seconde en seconde plus éclatante, et par les sons d'une musique douce et voilée d'abord, mais bientôt retentissante et solennelle. tous les personnages de la tapisserie venaient de s'animer. La reine de Saba s'inclinait devant Salomon, au pied duquel des esclaves éthiopiens amoncelaient des présents, tandis que tout un peuple portant sur ses épaules les statues de ses idoles informes et lipues, divinités grimaçantes et terribles, se pressait derrière la jeune souveraine. Mon réveil interrompit cette scène. La reine de Saba cessa de s'occuper de Salomon, et s'avançant vers moi, elle me dit « As-tu peur ?» Familiarisée depuis longtemps avec de semblables scènes, je répondis fièrement « La devise de ma famille est celle-ci. Tremblait ne tremble. Allah tremblait n'a jamais peur. » Cette réponse parut satisfaire complètement la reine, car elle répliqua tout aussitôt « Oui, ta race est une race forte et vaillante, et c'est pour cela que je viens à toi. » « Qui donc êtes-vous ? » lui demandai-je. Qui elle était ? Je le savais à merveille, mais j'étais bien aise de le lui entendre dire à elle-même. « Je suis, » reprit-elle, « je suis Balkis, fille de Hadab et reine des Amiarites. Je suis cette Balkis qui, venant de la ville de Mareb, capitale du royaume de Saba, offrit mes présents et mon cœur au fils de David, à Soliman ben Daoud, que vous appelez Salomon. Ainsi, madame la reine, vous avez aimé ce Soliman ben Daoud, fils de David et de Bézabée ? Plus que ma vie. Et lui, vous a-t-il rendu amour pour amour ? Il n'a jamais aimé que moi. En êtes-vous bien sûre, madame la reine ? Aussi certaine que je suis sûre de me nommer Balkis. Quoi ? Malgré ses 600 ou 700 femmes légitimes et ses 3 ou 4 000 concubines ? Malgré tout cela. Et cependant, quand je vins le trouver à travers le désert, pour lui faire don de mon amour et de ma virginité, il avait contre moi de terribles préventions. Oserais-je vous demander lesquelles ? Comme il était impossible de contester la beauté de mon visage et de mon corps, on avait dit à Soliman ben Daoud que mes pieds étaient des pieds de chèvre et que je les cachais sans cesse sous ma robe. Et Soliman ben Daoud avait cru cela ? On croit toujours le mal, surtout lorsque le mal est absurde et invraisemblable. Et comment faites-vous pour vous justifier, madame la reine ? Mes détracteurs eux-mêmes m'en fournirent le moyen. Ils avaient persuadé au fils de David de faire bâtir, pour m'y recevoir, un palais dont les dalles étaient revêtues de cristal. Quand Balkis entrera dans ce palais, lui avait-il dit, elle croira qu'il y a de l'eau sur le marbre. Elle retroussera sa robe et elle découvrira ses pieds de chèvre, qui prouvent que c'est un démon femelle. Le palais fut bâti. J'arrivai. Je crus en effet voir de l'eau. Je retroussai ma robe, ainsi que l'avaient prévu mes ennemis, et dans ce mouvement, je montrai mes pieds calomniés, mes petits pieds blancs et roses, dont chaque doigt portait des bagues enrichies de diamants, de saphirs et d'escarboucles. Que dit alors Soliman ben Daoud ? Il fit punir de mort tous ceux qui lui avaient menti, et à partir de ce moment, il me donna son âme et m'apprit les secrets qui le rendaient si puissant. Soliman ben Daoud avait donc des secrets ? La reine de Saba me regarda pendant 1 ou 2 secondes d'un air de commisération dédaigneuse. Un sourire de pitié gonfla ses narines roses et souleva sa lèvre écarlate. Puis elle me dit « Ne sais-tu donc pas que Soliman ben Daoud fut le plus grand magicien du monde ? Ne sais-tu pas qu'il commandait aux éléments et qu'à sa voix les morts sortaient de leur tombeau ? » Je l'ignorais complètement. Mais honteux de mon ignorance qui paraissait scandaliser si fort Balkis, je répondis avec humilité. « Pardonnez-moi, madame la reine, je l'avais oublié. Mais, ajoutai-je au bout d'un instant, est-ce donc pour me le rappeler et seulement pour cela que vous avez daigné m'apparaître ? Non. Vous avez un autre motif ? J'en ai un. Puis-je le connaître ? Je veux te payer, à toi. » descendant de Hugues de la Tremblée le Croisé, la dette de reconnaissance que j'ai contractée envers ta race. Mon ancêtre, Hugues de la Tremblée, vous a donc rendu un service ? Le plus grand de tous. C'est à lui, c'est à la tapisserie que reproduit ma forme terrestre et mon visage d'autrefois, que je dois de revivre en ce monde à certaines heures. Et c'est moi que vous avez choisi pour acquitter cette dette ?
Oui.
Grand merci, madame la reine. J'accepte d'avance et les yeux fermés tout ce que vous ferez pour moi, m'écriai-je.
Je ferai beaucoup, reprit Balkis, car je te révélerai quelques-uns des secrets magiques de Soliman Ben Daoud.
Chapitre 14. Premier succès. Et ? Demanda vivement le duc d'Orléans en interrompant le récit de Raoul. Ce que la reine de Saba vous promettait de faire, elle l'a fait ?
Oui, monseigneur.
Quoi ? Elle vous a donné la science et le pouvoir de Salomon ?
Pas absolument, monseigneur, car alors je serais le plus puissant des hommes. Plus puissant 100 fois que tous les rois et tous les empereurs de ce monde.
Elle m'a appris seulement, ainsi qu'elle venait de s'y engager, quelques-uns des secrets de son amant royal. Et le peu que je sais de cabale et de magie, c'est d'elle que je le tiens.
Ainsi, le pouvoir des évocations, ce pouvoir dont vous parliez tout à l'heure,
c'est la reine de Saba qui me l'a donné.
Étrange, étrange et prodigieux, murmura le duc d'Orléans en s'absorbant dans une profonde rêverie qui fut d'ailleurs de courte durée.
Bientôt, il releva la tête et demanda « Et depuis lors, chevalier, avez-vous revu Balkis ?»«
Souvent, monseigneur. »«
Jusqu'à quand ?»«
Jusqu'à maintenant. » »«
Il est rare que je laisse s'écouler plus d'un mois ou deux sans l'appeler, et elle vient à moi. » »«
Je l'interroge, et elle me répond. »« Je consulte, et elle me guide. » »«
Comment ?» s'écria le régent au comble de la surprise. « Vous l'évoquez encore ?»«
Oui, certes, monseigneur. »«
Seulement, il ne s'agit pas d'une évocation. »« Ce n'est point une ombre que je tire du néant par la force de mes conjurations. »« C'est la tapisserie qui devient femme, comme dans la troisième chambre de la Tremblée. » »«
La tapisserie mystérieuse existe donc toujours ?»«
Toujours, monseigneur. »«
Au fond de la Picardie, sans doute. »
Non, monseigneur.
Où donc ?
Ici même, à Paris. Je considère la reine de Saba comme mon génie familier, et je ne me sépare point de son image.
Mais alors, je pourrais la voir ?
À coup sûr, pour peu que votre Altesse le désire. Après ces derniers mots, échangés entre le régent et Raoul, celui-ci lança au marquis de Tiange un regard dans lequel se lisait tout l'orgueil d'un triomphe assuré.
Philippe d'Orléans reprit. « Mais alors, je pourrais assister au prodige ? Je pourrais être témoin de cette transformation inouïe ?
Votre Altesse royale n'aura qu'à le vouloir, et elle le pourra, » répondit la Tremblée en s'inclinant profondément.
« Vous aviez raison, chevalier, » poursuivit Philippe. « Vous aviez raison de ne point accepter au hasard le titre humiliant de rival d'Antonia Verdi. Qu'est-ce que la science de cet obscur adepte à côté de votre science ? Qu'est-ce que son pouvoir à côté de votre pouvoir ? »
Cette fois encore, le regard de Raoul se croisa d'une façon expressive avec celui de M. de Tiange. Et certes, Raoul avait le droit de s'enorgueillir et d'être fier de lui-même, car il venait de mener à bien, avec une incroyable habileté, la première partie d'un plan admirablement conçu. Cependant, le souper touchait à sa fin. Et bien loin de toucher à l'orgie, selon les us et coutumes presque invariables du palais royal, il devenait morne et silencieux. Les récits fantastiques de M. de la Tremblée avaient fait flotter dans l'atmosphère je ne sais quoi de sinistre et d'effrayant. Il semblait aux convives que des fantômes allaient surgir de tous côtés. Chacun d'eux se demandait si son voisin était bien vivant. Le duc d'Orléans comprit à merveille qu'il ne serait point possible de lutter contre cette préoccupation générale. Il se leva donc de table en disant à la statue grecque de l'opéra « Es-tu bien sûre, Émilie, de n'être point morte et enterrée sous quelque laurier rose du Péloponnèse depuis tantôt 2000 ans ? Es-tu bien sûre de n'être point l'ombre d'Aspasie ou de Phrynée ?»«
Il me semble, répliqua la belle fille, il me semble, monseigneur, que vous avez eu plus d'une fois toutes les preuves du monde que je n'étais point une ombre. » C'est ma foi vraie, ma charmante Laïs. Va donc m'attendre dans ma chambre. J'ai à te parler.
De l'histoire grecque, monseigneur ?
Précisément. Émilie disparut, foudroyée inutilement par les regards envenimés que lui lançaient au passage mesdames de Parabère et de Sabran. Ayant ainsi pris ses précautions contre une solitude nocturne qui n'était ni dans ses habitudes ni dans ses goûts, le régent congédia le reste de ses convives, après avoir dit à Raoul « Chevalier de la Tremblée, je vous attends demain à 2 heures. Je vous recevrai tout à fait cessante, car nous avons à causer de choses importantes. »«
Demain à 2 heures, répondit Raoul. J'aurai l'honneur d'être aux ordres de votre Altesse royale. »
Et il rejoignit avec Monsieur de Tiange le carrosse de ces derniers qui les attendaient.
« Eh bien, marquis, êtes-vous content ?» demanda le chevalier aussitôt que lui et son compagnon furent installés sur les coussins moelleux de la voiture qui les entraînait rapidement.
« Vous me demandez si je suis content ?»«
Oui. Eh bien, mon ami, je suis ravi, je suis enthousiasmé, je suis en extase. »
« Vrai ? Je vous en donne ma parole d'honneur. »
« Comme ça, vous trouvez que j'ai bien joué mon petit relais ?»«
À ce point que moi qui connaissais votre jeu et qui voyais vos cartes, je vous écoutais avec stupeur et je me demandais par moments si vous étiez de bonne foi, tant il y avait de vérité, de naturel, de conviction dans votre récit. »«
Ma foi, marquis, vous me rendez joyeux. » »«
Et vous avez bien raison de l'être, car vous venez de remporter une victoire éclatante et qui, je le crois, sera décisive. »
Alors, selon vous, nous tenons Philippe ?
Pieds et poings liés, et si vous continuez comme vous avez commencé cette nuit, bientôt vous gouvernerez en maître absolu celui qui gouverne la France.
J'en accepte l'augure.
Souvenez-vous, chevalier, ajouta Monsieur de Tiange en riant, que dès aujourd'hui je sollicite votre bienveillance et votre protection pour le jour où vous serez tout puissant.
Elles vous sont acquises d'avance, répondit Raoul du même ton. Puis il ajouta, mais beaucoup plus sérieusement,
« Le coup porté à l'italienne a été rude, n'est-ce pas ?
Si rude que je doute qu'elle s'en relève.
À l'heure qu'il est, je ne donnerai pas 500 pistoles du crédit d'Antonia Verdi.
Que Dieu, ou plutôt que le diable qui nous protège, vous entende. »
« Voici que nous allons arriver à votre porte, dit Monsieur de Tiange. Avons-nous à convenir de quelque chose ?
Oui, certes.
« Eh bien, me voilà à votre disposition. »
Vous ai-je dit que la fameuse tapisserie dont ma bonne étoile m'a rendu possesseur se trouve dans une sorte de gentilhommière délabrée qui s'appelle le Petit Chastel et qui est située entre Saint-Germain et Rueil, sur les bords de la Seine.
« Vous me l'avez dit. Il faut que cette tapisserie soit à Paris le plus vite possible.
Rien n'empêche qu'elle y soit aujourd'hui même. »
« Avez-vous un valet sur lequel vous puissiez absolument compter ?»«
Oui. De mon côté, j'ai mon fidèle Jacques, qui se ferait hacher pour moi en menus morceaux. Ces 2 hommes suffiront.
Qu'en voulez-vous faire ?»«
Je veux que dès ce matin, quand le jour paraîtra, nous nous mettions en route, vous, moi, votre valet et Jacques, dans une voiture que ce dernier conduira lui-même. En 1 heure et demie, nous serons au Petit Chastel. Les 2 valets décloueront et rouleront la tapisserie, et nous la rapporterons à Paris, sans que le bruit de notre expédition puisse le répandre et par conséquent arriver au palais royal.
Eh bien, si vous voulez, je viendrai vous prendre à 8 heures du matin, avec une voiture de chasse extrêmement légère, attelée de 2 chevaux aussi rapides que le vent.
C'est convenu. Au revoir, marquis.
Au revoir, chevalier, et à bientôt.
À midi précise, messieurs de Tiange et de la Tremblée revenaient du Petit Chastel, rapportant avec eux la tapisserie soigneusement roulée et enveloppée dans une grosse toile.
Chemin faisant, le marquis avait dit à Raoul
« Tout va bien, mon cher chevalier. Je trouve même que tout va trop bien. »
« Que voulez-vous dire, marquis ?»«
Je veux dire que je crains de voir un obstacle, le plus sérieux de tous, surgir au dernier moment et entraver la réalisation de nos beaux projets si bien combinés. »
« Un obstacle ? Et lequel, mon Dieu ?
Ou je me trompe fort, ou vous n'avez pas encore mis votre charmante Jeanne, votre vivante et gracieuse reine de Saba, au fait du rôle que vous lui destinez dans la petite pièce fantastique
que nous préparons pour la plus grande joie de ce bon Philippe d'Orléans, régent de France. C'est vrai, Jeanne ne se doute encore de rien. Mais qu'importe? Comment qu'importe? Et si elle allait refuser de nous seconder? C'est impossible. Tout est possible au contraire. Les femmes sont étranges et capricieuses. Et pour être dans le vrai, le vieux proverbe devrait dire « Ce que femme ne veut point, Dieu ne le veut pas ». En thèse générale, vous avez raison, j'en conviens. Mais dans la circonstance présente, vous avez tort. Jeanne ne vit que pour moi et n'a d'autre volonté que la mienne. Ce que je lui dirai de faire, elle le fera. Si je lui disais d'aller à la mort pour moi, elle irait en souriant. Soyez donc sans inquiétude, mon cher marquis. Je réponds de Jeanne. Quoi? Cette enfant est telle que vous dites? Je vous l'affirme. Mais dans ce cas, ce n'est pas une femme, c'est un ange. Pardieu, qui en doute? Eh bien alors, chevalier, nous méritons les galères tous les deux, savez-vous bien? Bah, et pourquoi donc? Vous, pour avoir trompé cet ange comme vous l'avez fait, et moi, pour vous avoir aidé. Raoul se mit à rire. Parlez-vous sérieusement? Demanda-t-il ensuite. Très sérieusement. Eh bien, mon cher marquis, je suis tout consolé d'avance d'aller ramer sur les galères du roi en votre compagnie. Du reste, je vous garantis que je rends Jeanne parfaitement heureuse. Je vous crois, mais cela durera-t-il? Le plus que je pourrai. D'ailleurs, est-ce ma faute à moi, si j'étais déjà mariée quand j'ai rencontré Jeanne? Je l'aime de toute mon âme, et si le diable me faisait cette grâce insigne de me débarrasser de ma première femme, ce que je lui demande chaque jour dans ma prière du matin et du soir, un bon mariage, bien en règle, remplacerait sans plus tarder l'union de comédie pour laquelle vous m'avez prêté votre chapelle et votre concours. Chapitre 15. Philippe et Raoul. Mathias Aubert. Ce même jour, à 2 heures précises, Raoul était introduit dans le cabinet du régent. Philippe d'Orléans fit 2 ou 3 pas au-devant du jeune homme. Ces 2 ou 3 pas étaient l'irrécusable symptôme du commencement d'une faveur inouïe, sans précédent, sans limite. Le cœur de Raoul bondit de joie dans sa poitrine, mais son visage resta impassible et l'expression profondément respectueuse de sa physionomie ne laissa rien lire de ce qui se passait dans son âme. « Chevalier, dit le régent, savez-vous bien que je n'ai pas dormi cette nuit, ou plutôt ce matin, après votre départ ?»« J'ose espérer, répondit Raoul, qu'il faut féliciter la belle Émilie à l'endroit de cette insomnie de votre Altesse royale, et qu'on ne doit point s'inquiéter d'un état de malaise passager. « Je me porte à merveille, répliqua Philippe en souriant, et j'ai oublié de causer avec Émilie, ainsi que j'en avais d'abord l'intention. Cependant, cette insomnie de votre Altesse? Vous seul en êtes cause, mon cher chevalier. Moi? S'écria Raoul en feignant un effroi qu'il n'éprouvait en aucune façon. Oh, ne vous alarmez point. Oui, vous en êtes la cause, mais la cause innocente. Je n'ai pas dormi parce que j'étais singulièrement préoccupé de vos 3 récits, et surtout du dernier. Et c'est à son sujet que j'ai désiré vous revoir aujourd'hui. Depuis cette nuit, j'ai une idée fixe, mon cher chevalier. Si j'osais me permettre d'interroger votre Altesse, vous me demanderiez quelle est cette idée, interrompit le régent. Eh bien, je vais vous la dire. Je veux voir la reine de Saba. J'ai déjà entendu votre Altesse royale exprimer ce désir. Et j'ai eu l'honneur de lui répondre que rien n'était plus facile que de la satisfaire. « Oui, mais quand ?»« J'ai remarqué que la nuit du samedi était celle que la reine Balkis choisissait de préférence pour se manifester à moi. C'est aujourd'hui mercredi, ainsi donc, dans 3 jours, votre Altesse pourrait être témoin du prodige qui pique sa curiosité. Va pour samedi, mais d'ici là, n'est-il pas possible au moins de me montrer la tapisserie miraculeuse ?»« J'ai prévu le désir de votre Altesse. Et qu'avez-vous fait ?» J'ai fait apporter cette tapisserie. Ici? Elle est dans l'antichambre qui précède le salon d'attente. Je l'ai laissé sous la garde d'un de mes valets.
Chevalier, s'écria Philippe avec expansion. Vous êtes un serviteur fidèle et zélé. Vous êtes mieux que cela. Vous êtes un précieux ami.
Raoul, enivré de joie et d'espoir par de telles paroles, ploya les genoux devant le régent, qui le releva avec bonté. Puis ensuite s'approcha d'un timbre sur lequel il frappa vivement et à deux reprises. Un valet de chambre accourut.
« Dans l'antichambre qui précède le salon d'attente, lui dit le régent, vous trouverez un homme à la livrée de Monsieur de la Tremblay. Apportez ici à l'instant même, avec cet homme, l'objet dont il est le gardien. »
Au bout de 10 minutes, la tapisserie, toujours renfermée dans son enveloppe de grosse toile, faisait son entrée dans le cabinet de Son Altesse Royale, qui la fit dérouler sans perdre une seconde et qui ordonna au valet de se retirer.
« Ainsi donc, s'écria Philippe, quand il eut contemplé longuement et avec une sorte d'extase les traits de la reine de Saba, ainsi donc voilà cette héroïne biblique. Voilà cette Balkis, reine des Amiarites. Voilà cette jeune et rayonnante maîtresse de Salomon, fils de David, le plus grand roi du monde. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! »
La reine Balkis, demanda Raoul en souriant, a donc l'insigne honneur de plaire à votre Altesse?
Ah, je comprends bien, murmura le régent, je comprends bien que pour elle, Salomon ait abandonné ses 700 femmes légitimes et ses 3000 concubines.
Puis, après une longue et muette contemplation, il reprit.
Et je la reverrai vivante? Et telle qu'elle était au jour de sa jeunesse et de son amour?
Oui, monseigneur, vous la reverrez.
Pourrais-je lui parler?
Oui, monseigneur.
Me répondra-t-elle?
Je ne puis l'affirmer à votre Altesse.
Mais elle vous répondra, du moins, à vous, devant moi.
Ceci n'est pas douteux.
Quel lieu choisirez-vous pour l'apparition?
Le lieu qu'il plaira à votre Altesse de me désigner.
Le palais royal vous convient-il?
Parfaitement.
Eh bien, je vais donner l'ordre qu'on mette à votre disposition un appartement, où vous et les gens qu'il vous conviendra d'y conduire aurez seuls le droit d'entrer. Vous y ferez tendre la tapisserie sous vos yeux, et jusqu'à la nuit de samedi, vous y serez maître absolu.
Avez-vous à faire quelques objections à cet arrangement?
Aucune, monseigneur.
Vous désignerez vous-même les personnes qui pourront se joindre à moi pour la nuit de samedi.
Si votre Altesse royale daigne me le permettre, j'exprimerai le désir que ces personnes soient peu nombreuses.
C'est vous qui commanderez, et non pas moi.
Si vous le voulez, je serai seule.
Cette solitude n'est point nécessaire. Votre Altesse royale pourrait avoir avec elle le marquis de Tiange et une ou deux dames.
Lesquelles?
Madame de Parabère et la belle Émilie.
C'est convenu.
Et maintenant, je vous le dis de nouveau, vous allez être le maître absolu dans l'appartement qui vous sera donné.
Et le régent, après avoir jeté un nouveau et long regard sur le visage si doux de Balkis, répéta d'une voix émue.
« Oh, qu'elle est belle!
Qu'elle est belle !»
Nos lecteurs se souviennent-ils d'un honteux cabaret, d'une taverne infâme située à la pointe Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, et placée sous la trompeuse invocation de Mars et Vénus. Deux fois déjà, nous les avons conduits dans ce bouge immonde à la suite de notre héros, le chevalier Raoul de la Tremblay. La première fois, Raoul allait y chercher une poignée de bandits qui voulussent l'aider dans la réalisation de ses projets de vengeance contre les 3 collatéraux qu'il avait dépouillés de l'héritage de Réginald, son père adoptif. On n'a pas oublié sans doute quelle terrible vengeance il avait tirée du comte de Jacquemet, du chevalier de Vertappuy et du baron de Mornesouche. La seconde fois, Raoul venait au cabaret de Mars et Vénus pour y trouver un espion habile, Mathias Aubert, surnommé le Lynx, qui put le renseigner au sujet d'Antonia Verdi. On se souvient qu'à la suite d'un entretien que nous avons rapporté, Mathias Aubert, grâce à d'anciennes relations de brigandage avec Jean Carré, le laquais d'Antonia, avait pu présenter à Raoul un rapport détaillé et renfermant quelques faits intéressants, quoiqu'il n'atteignît point le but désiré, car il laissait subsister autour de la prétendue italienne les voiles épais d'une impénétrable obscurité. Nous voici dans la fâcheuse mais impérieuse nécessité de conduire nos lecteurs pour la 3e fois dans cette même taverne du quartier des Halles. C'est encore Mathias Aubert qui nous attire dans cet endroit mal hanté et d'où toutes nos sympathies nous éloigneraient. La scène que nous allons raconter se passait le soir du jour où Raoul avait fait apporter au Palais Royal la tapisserie de la reine de Saba. Mathias Aubert, espion par goût, voleur par tempérament, et bravo quand l'occasion se présentait de vendre à bon prix un coup de couteau ou un coup d'épée, occupait son angle habituel dans l'une des deux pièces qui formaient le rez-de-chaussée du cabaret. Selon son invariable habitude, il fumait une courte pipe en terre, amplement culottée. Il buvait lentement et à petites gorgées le contenu d'une mesure d'étain remplie d'eau-de-vie pimentée. Mathias Aubert était encore plus maigre et plus pâle que de coutume. Seulement, son costume misérable avait été remplacé par une défroque en assez bon état, achetée chez le fripier. Sans doute, après avoir acquis ce nouvel ajustement, Mathias Aubert avait dévoré, en débauche de toutes sortes, le reste des 30 louis qu'il avait reçus peu de jours auparavant de la munificence de Monsieur de la Tremblay. Et sans doute aussi, c'est à ces débauches qu'il fallait attribuer la morbide pâleur de son visage de bandit. La pipe de Mathias Aubert s'éteignit, faute de tabac. Il approcha de ses lèvres la mesure d'étain. Quelques gouttes, tout au plus de l'affreux breuvage, restaient au fond. Il n'en fit qu'une demi-gorgée, et après avoir reposé sur la table crasseuse le récipient vide, il fouilla dans toutes ses poches avec une sorte d'acharnement. Inutile recherche. Les poches étaient vides, ou du moins elles ne contenaient qu'un mouchoir en mauvais état, des cartes biseautées et des pipes. Mathias Aubert exprima toute sa contrariété en frappant sur la table un énorme coup de poing qui fit tressauter à la ronde les brocs et les gobelets. Mais ce coup de poing, tout vigoureux qu'il fût, ne remédiait à rien. « Allons, » murmura l'honorable personnage en se parlant à lui-même. « J'irai ce soir me promener sur le Pont-Neuf, entre 11 heures et minuit, et j'aurai bien mauvaise chance si je ne trouve pas dans la poche de quelques bourgeois attardés précisément la bourse que j'ai perdue ce matin. » Une fois cette louable résolution prise et formulée d'une façon aussi délicate, le calme parut rentrer dans l'esprit de Mathias Aubert, et une sorte de sourire se dessina sous les épaisses moustaches noires qui recouvraient ses lèvres flétries. En ce moment, un nouveau personnage entra dans le cabaret.